Sommes-nous plus près que jamais du retour des expos à Montréal? Pour en parler, Philippe Quentin est avec nous. Salut Philippe.
Salut Mathieu.
Je lisais hier, tu prends avec quand même une certaine prudence là, les conclusions de l'étude qui a été présentée par le groupe d'investisseurs intéressés, CSL. Ton collègue Lagacé, lui, va même un peu plus loin. Lui, il ne croit pas à ça pantoute.
Oui, ben disons que c'est un papier très intéressant de Patrick ce matin. Mais je pense que au niveau de l'étude qui a été dévoilée cette semaine, Mathieu, c'est une étude qui est un peu banale, en fait. Parce que, qu'est-ce qu'on dit là-dedans? Essentiellement, c'est qu'on fait la liste d'indices socio-économiques sur la taille du marché de Montréal par rapport à d'autres agglomérations nord-américaines qui accueillent actuellement une équipe du baseball majeur. Alors, bon, c'est une liste. Ce sont des faits bruts. Par exemple, la taille du marché de télévision. Montréal serait 12e sur 27 au niveau de la taille du marché. Tout ça, c'est très bien, mais ça ne nous aide pas à répondre à la question fondamentale par rapport à cet enjeu-là précisément, par exemple, celui du marché local de télé. Combien les expos 2.0 réussiraient à obtenir d'un diffuseur local pour retransmettre leurs matchs à la télévision dans le grand marché de Montréal, du Québec et dans l'ensemble du Canada? Et ça, c'est ça le nerf de la guerre, parce qu'il n'y a pas nécessairement une corrélation entre le fait que tu es 12e dans le classement nord-américain et que tu aurais les 12e plus hauts revenus. Là, je peux te dire, ça ne se passera pas comme ça, pas dans le marché de Montréal. Alors, cette question-là, on n'y répond pas. Et on sait très bien qu'il faudrait que pour une équipe réussisse à faire ses frais, ça prend un contrat d'environ, au moins probablement 40 millions de dollars par année.
Je vois, puis dans le contexte actuel, on sait que ça va être un petit peu plus difficile. Surtout que les codes d'écoute sont moins au rendez-vous l'été.
Oui, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, il y a toujours la présence du hockey. Là. Si le Canadien est en série, disons, jusqu'au mois de mai, là, c'est sûr que les codes d'écoute du baseball à la télé vont souffrir. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et d'autre part, je trouve aussi qu'il y a des chiffres qui sont très intéressants. Par exemple, sur l'intérêt des gens pour le baseball, c'est sûr qu'on a d'abord sondé des amateurs de baseball, puisque les listes à partir desquelles on a travaillé, des bases de données, ce sont celles de Baseball Québec, celles de Expo Nation, aussi la Chambre de commerce de Montréal qui vient un peu des listes qui appartenaient à la Chambre de commerce qui viennent un peu diversifier le bassin de répondants. Mais il en reste pas moins, encore une fois, que entre répondre oui à un sondage, dire oui, je vais acheter des billets, oui, je suis intéressé, et puis faire un chèque, déposer de l'argent comptant, là, il y a un gouffre. Hein? Il y a un gouffre entre les deux. Et moi, je ne vois pas, Mathieu, comment le groupe de Montréal, parce que c'est comme ça maintenant qu'il faut, c'est le nom qu'ils se sont donné, qu'on l'appelle, comment le groupe de Montréal pourra faire l'économie là, d'un point de passage obligé, c'est-à-dire de sonder vraiment l'intérêt des gens en leur demandant, éventuellement, c'est trop tôt pour ça, bien sûr, à l'heure actuelle, mais de déposer des sommes d'argent. Regarde ce que la Ligue nationale de hockey a fait dans les trois dernières nouvelles équipes, c'est-à-dire Winnipeg, quand Atlanta a transféré Winnipeg, dans le cas de Las Vegas et dans le cas de Seattle. Dans les trois cas, il y a eu une obligation pour les gens de déposer des sommes d'argent, de dire « oui, on est intéressé et voici, on fait un chèque ». Et ça, ben, ça parle plus fort que simplement répondre « oui » à un sondage. Alors pour moi, ça, ça me semble qu'éventuellement, il faudra que ce soit une étape assez déterminante.
Et Philippe, la grande inconnue là-dedans, pour moi, c'est la question primordiale. Là, on nous prépare tranquillement pas vite là, avec la demande qui sera formulée au public. Ouais. Là, si au départ, c'était très, très, très nébuleux sur la participation du public, là, ça, c'est une condition sine qua non à ce qu'on en comprend, mais jusqu'à quel point le groupe va, qu'est-ce qu'ils vont demander?
Ben, c'est ça, c'est la grande inconnue. Ça a été un petit peu les montagnes russes. Souviens-toi, en 2013, qu'on a commencé à parler de ça pour la première fois, quand le projet avait été déposé en décembre de 2013. Mm-hmm. Et là, à ce moment-là, on demandait une participation publique très importante pour la construction du stade. Là, par la suite, Valérie Plante a été élue mairesse de Montréal. Ouais. M. Bronfman a bien compris qu'il n'y aurait pas d'aide de la ville sans référendum, puis on se doute bien quels seraient les résultats d'un référendum comme celui-là à Montréal. Alors, je pense que adapter un peu son projet, mais là, cette rencontre-là avec M. Legault, jeudi dernier, relancer ce débat-là dans l'actualité. Alors, j'ai hâte de voir, et je pense qu'il va falloir qu'avant longtemps, et en fait très rapidement, que M. Bronfman et son groupe nous disent exactement ce qu'ils ont en tête. Parce que s'ils ne le font pas, Mathieu, c'est que les rumeurs vont partir dans tous les sens.
Exact.
Et là, ils vont perdre le contrôle du message. Et s'ils perdent le contrôle du message, ce projet-là risque de déraper.
Hey, merci beaucoup, Philippe Quentin, d'avoir été avec nous.
Salut!
Salut bien, au revoir. La chose la plus saugrenue que j'ai vue aujourd'hui, la bagarre entre un partisan des Blackhawks et la mascotte, ça s'est passé hier. Elle s'est faite attaquer, elle savait se défendre, visiblement. Il est 10h40.